Que Dieu nous bénisse tous ensemble, qu'il soit avec nous ce week-end de manière tangible, visible, palpable, afin que nous n'entendions pas seulement les paroles de Dieu, mais que nous fassions l'expérience de Dieu, que nous nous rapprochions de lui, que nous soyons plus intimement unis à lui et que nous soyons fortifiés et édifiés dans la foi. C'est tout simplement ce dont nous avons besoin en ces jours, être édifiés dans la foi, devenir inébranlables, prendre notre position dans la parole et être solidement ancré. Frère Rousse a lu un psaume merveilleux. Frère Branham a un jour pris ce psaume comme texte pour son sermon et nous connaissons tous les explications qu'il a données à ce sujet. Nous avons soif de Dieu. Nous souhaitons qu'il se manifeste à nous, non pas à nous en tant qu'être humain, mais à sa parole que nous portons, qu'il la confirme et la réalise en nous et à travers nous. La parole est vraie. Il ne reste plus qu'à la confirmer à travers nous afin que d'autres puissent eux aussi voir et expérimenter que Dieu vit, qu'il tient parole et accomplit ce qu'il promet. Si nous pouvons brièvement évoquer la situation politique, nous pouvons affirmer avec certitude ce que nous avons déjà dit à plusieurs reprises. La phase finale s'annonce à tous égards et nous savons que les ennemis d'Israël sont encore loin d'être vaincus. Quant aux anges qui sont liés, ils le restent toujours. Ce n'était qu'un bref aboiement, une brève manifestation pour savoir d'où vient le danger, d'où il va surgir. Il est d'ailleurs écrit que la voie sera ouverte au roi de la terre ou de l'Orient et qu'ils remonteront l'Euphrate. Mais toutes ces choses sont encore à venir et nous l'avons dit au début de ce conflit, comment cela se passerait et il en a été ainsi car le temps n'est pas encore venu. Mais il y a une chose que j'ai déjà mentionné dimanche dernier à Zurich qui me touche vraiment beaucoup. Si l'on considère que selon les estimations des experts, il faudra 6, 7, 8 ans pour reconstruire ce qui a été détruit, et cela s'inscrit très bien dans le contexte de la fin des temps. Les ennemis d'Israël seront alors à nouveau prêts à venir attaquer. Non pas depuis l'Est, mais depuis le Nord, comme il est écrit. Ce ne seront alors pas les maisons qui seront détruites, mais une grande partie de la population mondiale qui sera anéantie. Et tout comme il faudra maintenant de nombreuses années pour reconstruire, il faudra alors exactement 7 ans pour tout déblayer et 7 mois seulement pour enterrer les personnes qui auront péri. Ézéchiel 39, 12. Mais comme je l'ai dit, on n'a fait qu'évoquer où les choses suivront leur cours ou d'où elles prendront leur cours. Et bien que je sois un spectateur occasionnel des journaux télévisés, j'ai vu cela de mes propres yeux lorsqu'un commentateur à un moment donné dans le passé a montré dans le journal de 23 heures le livre de Hussein, non pas mon combat, mais notre combat. avant d'expliquer comment cet homme avait repris de nombreux éléments du livre d'Hitler, Mon combat, pour les intégrer dans son ouvrage Notre combat. Je ne sais pas qui a lu le livre Mein Kampf, Mon combat, mais les 781 pages de ce livre contiennent énormément de choses. Et je peux sans doute affirmer comment le soutiennent les experts qu'Hitler était bien trop stupide pour écrire un tel livre. Celui qui a écrit ce livre était bien plus qu'un simple professeur d'histoire. L'homme si compétent qu'il a rédigé n'était pas celui né à Braunau am Inn. Mais c'était un jésuite, c'est lui qui l'a écrit, et le monde entier l'attribue à un autre homme, car on le lui a attribué. Je l'ai lu, j'ai peut-être survolé quelques pages, sauté certaines parties dans l'ensemble, je l'ai lu, je l'ai dans ma bibliothèque au bureau, et il s'agit principalement d'exterminer complètement les Juifs et de raser l'État d'Israël, de le réduire à néant. Et ainsi, nous voyons que des êtres humains sont enlevés de cette terre, mais que les esprits restent et ils trouvent toujours quelqu'un par qui ils peuvent agir. Mais voici ce que nous savons. Dieu ne permettra rien de tel, et certainement pas avant l'heure, mais ce n'est que lorsque le temps sera accompli que tout cela arrivera. J'ai dû penser à ces deux passages de l'Apocalypse, et tout est en effet très bien ordonné dans le temps, de sorte que nous avons pu consigner ces événements de manière claire et compréhensible, et que nous pouvons également les voir distinctement. Dans Apocalypse 9, lors de la sixième trompette, il est fait allusion à ce qui va se passer, et dans Apocalypse 16, des versets 12 à 16, plus précisément lors de la sixième coupe de colère, ce qui se passera à ce moment là est clairement montré. Ces deux événements s'inscrivent dans la section du sixième sceau et se succéderont. Apocalypse 9, relisons ces versets. Apocalypse 9, verset 13. Oui, quelques versets. Apocalypse 9, verset 13. Alors le sixième ange sonna de la trompette, j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui se trouvait devant Dieu. Verset 14. Qui ordonna au sixième ange qui tenait la trompette, détache les quatre anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. Verset 15. Alors les quatre anges qui étaient prêts à l'heure, au jour, au mois et à l'année fixée, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. La description se poursuit ensuite. Lisons maintenant Apocalypse 15, le premier verset. Apocalypse 15, verset 1, puis le chapitre 16, à partir du verset 12. Apocalypse 15, verset 1. Je vis ensuite un autre signe grand et merveilleux dans le ciel, sept anges portant les sept derniers fléaux, car c'est par eux que s'achève la colère de Dieu. Les coupes de la colère sont la dernière étape, ce sont les derniers jugements de Dieu sur l'humanité impie. C'est par les sept coupes de la colère que la colère de Dieu sur la terre trouve son accomplissement. Nous avons ensuite les unes après les autres, les cinq premières coupes de la colère, et ce n'est qu'au cours de la sixième, c'est-à-dire vers la fin, que s'accomplit ce que nous avons lu dans Apocalypse 9. Dans l'Apocalypse 16, à partir du verset 12, il est dit ici, Apocalypse 16, verset 12, « Ensuite, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau se dessécha, afin que le chemin fût ouvert au roi venant de l'Orient. » Verset 13, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. » Verset 14, « Ce sont en effet des esprits diaboliques qui accomplissent des prodiges. Ceux-ci se rendent auprès des rois de toute la terre pour les rassembler en vue du combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. » Et ensuite, il nous est décrit plus en détail où cela aura lieu, à savoir à Armageddon et non à Bashra. Ainsi, cela aussi est clairement indiqué ici d'un point de vue géographique où cela se passera. Mais aussi quand cela se passera. Heureusement, pouvons-nous dire en poussant un soupir de soulagement, ces événements se produiront après l'enlèvement. Dans Zacharie 14, les trois étapes de ce qui se passera à ce moment-là nous sont en fait clairement décrites l'une après l'autre. Zacharie 14, dans la première partie du verset 1 au verset 5, nous apprend que, au verset 5, donc, il nous est dit ici que l'attaque contre Jérusalem aura lieu. Au verset 4, il nous est dit, je vais peut-être lire le verset 4. Il est dit ici à propos de notre Seigneur, au verset 4, en ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers qui se trouve à l'est de Jérusalem. Ainsi, ce jour-là, notre Seigneur interviendra lui-même, mettra fin à la bataille et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Au verset 9, il est écrit, le Seigneur sera alors roi sur toute la terre. Ce jour-là, le Seigneur sera l'unique et son nom sera l'unique. Et le verset 12 nous dit quel châtiment sera infligé lorsque la bataille contre Jérusalem éclatera. D'après le verset 12. Du verset 12. Mais voici en quoi consistera le châtiment. Que le Seigneur, aucun homme, ni l'Amérique, ni aucune superpuissance, mais par lequel le Seigneur punira toutes les nations qui sont parties en guerre contre Jérusalem, il fera pourrir leur chair alors qu'ils seront encore debout sur leurs pieds. Leurs yeux pourriront dans leurs orbites et leur langue se décomposera dans leur bouche. Vous savez tous que je ne suis pas prophète. Il n'est pas nécessaire de le proclamer au son de la trompette, mais j'ai dit au moins ceci. Cette fois-ci, aucune arme ne sera utilisée, aucune arme chimique ne sera employée. Il était tout simplement trop tôt. Maintenant, et selon la parole du Seigneur, elles ne seront utilisées qu'alors lors de la bataille finale. Et Dieu renversera la situation et les ennemis feront l'expérience des conséquences de leur propre invention et ce sur eux-mêmes. Ce qui est écrit se réalisera alors au sens figuré. Proverbe 26-27, celui qui creuse une fosse pour autrui, il tombera lui-même. Donc, ce n'est pas maintenant, mais seulement à ce moment-là que ces gaz toxiques seront utilisés et les yeux des hommes sortiront de leurs orbites alors qu'ils seront encore debout sur leurs pieds et leur langue pourrira dans leur bouche. Mais puisque nous en sommes déjà à ce sujet, nous devons nous poser sérieusement la question, à quel point l'enlèvement pourrait-il alors être proche? Si toutes ces années sont nécessaires pour se réarmer, reconstruire et rétablir afin de pouvoir ensuite porter un véritable coup final, et s'il reste encore 7 ans après l'enlèvement, et il y en aura, et je tiens à dire cela pour tous ceux qui ont lu le livre des Sceaux et certains sermons du frère Branham, je tiens à le dire très clairement ici. Lorsque le frère Branham parle de 3 ans et demi, et il le fait effectivement à plusieurs reprises, il faut savoir exactement ce qu'il avait sous les yeux. Quand il pense au ministère des deux témoins, il pense à 3 ans et demi. Et il dit alors, l'épouse jouira de la gloire pendant ces 3 ans et demi. Elle sera dans la gloire selon ce qu'il a en tête à ce moment-là. Il formule ce qu'il dit à propos de la période suivante. Donc, à propos de la période après l'enlèvement. Mais je peux vous donner plus de 5 citations. Certainement plus de 5, où il divise la dernière semaine de l'année en 2 périodes de 3 ans et demi. C'est ce qu'a fait Irénée, c'est ce qu'a fait Martin Luther, c'est ce qu'ont fait tous les grands hommes de Dieu. Et c'est ainsi que cela doit être. Il faut donc toujours faire attention. Je viens d'en faire l'expérience à Zurich. Un homme est venu me dire, mes frères, Branham n'a parlé que de 3 ans et demi et toi, tu as parlé de 7. Il a parlé des 2, de 3 ans et demi et de 7. En tant que personne bien initiée, je peux l'affirmer sans crainte. Mais comme je viens de le souligner, tout dépend toujours des questions qui lui ont été posées et du contexte dans lequel il a dit telle ou telle chose. Je peux vous faire écouter le passage où il fait répéter à toute l'assemblée, une semaine équivaut à 7 ans. Et je peux vous faire écouter le passage où il a dit, dès l'instant où l'église sera enlevée, commencera la 70e, la dernière semaine d'année. Bien sûr, mais il y a des frères qui n'ont pas pris cela au pied de la lettre et qui ne retiennent que les passages qui correspondent à leur conception. Et au final, cela ne tient plus la route. Il faut toujours être honnête envers soi-même, envers la parole et aussi envers Dieu et se mettre ainsi à la place de celui qui a prêché et parlé dans son raisonnement, dans ses pensée, questionnement dans son argumentation afin de pouvoir ensuite dire précisément ce qu'il a voulu dire, quand et dans quel contexte. Nous savons tous, en effet, que je ne veux pas m'étendre là-dessus pour l'instant, j'écris déjà à ce sujet en ce moment, mais selon le prophète Daniel, loin devait, après les 7 semaines et les 62 semaines, être mis à mort sans qu'aucune faute ne lui soit imputée. Daniel 9, 26, il n'y avait en effet aucune faute en lui. Il a pris nos fautes sur lui. Et je ne sais pas pourquoi certains enseignants bibliques ont toujours mis l'accent sur les 3 ans et demi. Il n'y a pas un seul passage biblique qui nous dirait que Jésus-Christ, notre Seigneur, a prêché pendant 3 ans et demi. C'est dans l'esprit des gens, mais pas dans la Bible. Cela ne figure tout simplement pas dans les Saintes Écritures. On ne peut pas dire s'il a prêché 2 ans, 3 ans ou 3 ans et demi. Personne ne le sait. Les théologiens se sont copiés les uns sur les autres. Ils ont repris cette idée sans l'avoir vérifiée. Puis ils en tire la conclusion et divise la dernière semaine en 2 périodes de 3 ans et demi, une pour le Seigneur à l'époque, autrefois, puis une autre pour les 2 témoins, et c'est ainsi qu'ils arrivent à la fin de leur calcul. Mais ce calcul n'est pas correct, il ne tient pas à la route. Mais comme je l'ai dit, nous allons probablement l'expliquer à l'aide d'un schéma et des passages bibliques correspondants afin d'avoir devant nous une situation claire et compréhensible fondée uniquement sur les Saintes Écritures. Ce sera sans doute la meilleure façon de procéder, juste pour le préciser brièvement. Les 2 témoins, après l'enlèvement, c'est écrit dans la Bible, exerceront leur ministère pendant 3 ans et demi. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, et il en sera ainsi. Apocalypse 11, verset 3. Il est également écrit que les saints seront livrés à l'Antichrist pendant 42 mois, soit également 3 ans et demi. Apocalypse 12, verset 7. Et il ne peut en aucun cas s'agir des mêmes 3 ans et demi, car pendant les trois premiers ans et demi, les arbres ne doivent pas être touchés et rien ne doit être endommagé. C'est alors que les 2 prophètes exerceront leur autorité sur la terre en vertu d'une autorité divine, et ils doivent prophétiser pendant 3 ans et demi. Ou selon la traduction de Menge, parler de manière prophétique. Et c'est par leur ministère que les 144 000 seront appelés et marqués d'un sceau sur leur front. Puis l'alliance sera rompue, et c'est alors que commencera la grande persécution contre l'Église restante, mais aussi plus particulièrement contre les 144 000 qui, selon le 5e sceau, subiront eux aussi la mort au martyr, car ainsi il est écrit dans Apocalypse 6, verset 11, « Soyez patients jusqu'à ce que vos frères aient eu aussi subi la mort comme vous. » C'est ce qui est écrit dans le 5e sceau, et c'est ainsi que cela s'accomplira. Ici, dans Zacharie 14, juste un bref passage du verset 16, on nous y décrit ce qui arrivera à toutes les nations qui auront alors survécu après la grande bataille. Zacharie 14, verset 16. Après cela, tous ceux qui, parmi toutes les nations, seront restés en vie après avoir marché contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. On peut lire le texte jusqu'au bout. Il ressort très clairement du verset 20 que le temple sera alors debout. Verset 20. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, saint au Seigneur, et les marmites dans le temple du Seigneur seront semblables aux coupes à offrande devant l'autel. À ce moment-là, le temple sera de nouveau là, et ainsi de suite. Et l'homme qui s'assiera dans le temple sera également présent. Nous l'avons lu dans Apocalypse 16, et cette collaboration doit avoir lieu à la fin. Le faux prophète, le dragon et la bête. Nous écrirons également à ce sujet. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Je relisais le prophète Daniel, je lisais l'Apocalypse, et voici qu'une lumière plus grande m'est apparue. J'ai acquis une meilleure compréhension, une plus grande clarté sur certains liens et contextes, et mon cœur s'est réjoui de voir tout cela, de le voir plus clairement qu'auparavant. Et avec l'aide de Dieu, nous l'exposerons. C'est parfois difficile. Et j'ai dit au Seigneur, après que la lumière eut été jetée ici et là sur certains passages bibliques, j'ai simplement dit, Seigneur, c'est uniquement parce que le temps est venu maintenant que tu apportes lumière et clarté sur tous ces détails qui auparavant ne pouvaient être ni vus ni compris. En ce qui concerne cette dernière bataille, on peut en prendre connaissance dans Ézéchiel 39, en particulier au verset 17 à 20, et dans Apocalypse 19, verset 17 et 18, et de nombreux autres passages bibliques peuvent être consultés. Ils nous éclairent sur ce qui va se passer. Maintenant, une parole à nous tous. Une parole à nous qui avons eu le privilège d'être appelés par Dieu à sortir pour voir la lumière de Dieu qui brille dans les ténèbres, pour discerner le chemin, pour le reconnaître, pour comprendre et ordonner correctement le message que Dieu a donné ainsi que les signes des temps. Je veux dire par là que nous ne sommes pas n'importe qui, ni une bande hétéroclique, donc quelque chose de collé ensemble, mais nous sommes une multitude appelée par Dieu lui-même, issue de tous les peuples, langues et nations qui par grâce sciemment rangé du côté de Dieu en ces derniers jours, qui a sciemment renoncé à tout le reste pour pouvoir suivre le Seigneur. Il est en effet écrit, nul ne peut servir de maître. On ne peut pas d'une part se rallier à un système antichrist et d'autre part appartenir à Christ. Dieu nous a donné par grâce le discernement, nous y voyons clair. Et c'est pourquoi je le crois, Dieu a un projet avec nous. C'est à nous que s'adresse la parole que l'apôtre Pierre a écrite comme avertissement pour les derniers jours, en lien avec la venue du jour du Seigneur, telle qu'elle nous est présentée de manière pressante dans 2 Pierre, au chapitre 3. Oui, cela doit nous toucher au plus profond de notre cœur. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 2, il est écrit, 2 Pierre, chapitre 3, verset 2, afin que vous gardiez à l'esprit les paroles que les saints prophètes ont prononcées auparavant, ainsi que le commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été transmis par vos apôtres. Cela doit être simple et être ainsi. Nous devons comprendre la parole prophétique et la parole apostolique découle en fait en réalité de la parole prophétique. C'est le même Dieu, le même programme. Les apôtres et les prophètes étaient des hommes dont Dieu avait spécifiquement besoin, il avait particulièrement utilisé et qu'il a pu utiliser pour annoncer son plan de salut, puis pour nous en montrer la réalisation. Il est question ici des moqueurs de la fin des temps, puis du fait que le ciel actuel est préservé par cette même parole afin d'être destiné au jugement, à la ruine des hommes impies, verset 7, et ensuite au verset 8. De plus, bien-aimés, ne négligez pas ceci. Un jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, et nous est ensuite rappelé que le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, mais il use de patience car il ne veut pas que certains périssent. Or, quelqu'un dira que certains ne se perdent pas. Des milliards se perdent. Mais certains ne doivent pas se perdre. Ces certains sont ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ils ne peuvent pas se perdre. Ils doivent être appelés à sortir. Ce n'est qu'alors, lorsque le nombre sera complet, la totalité sera pleine, que la fin pourra survenir. Et puis nous lisons au verset 10, ce qui ressort également de la deuxième partie du verset 9. Dieu ne tarde pas, comme certains, verset 9, le considèrent comme une tardance, mais il fait preuve de patience envers nous, car il ne veut pas que certains se perdent. Chez Dieu, personne ne doit se perdre, sauf le fils de la perdition. Et celui-ci était destiné à cela. Nous pouvons le lire dans la Bible. Dieu aime les siens jusqu'à la fin. Et aucun des siens ne peut pas être perdu. C'est ça, à l'époque de Moïse, il a dit, pas une seule griffe ne restera en Égypte, mais tout ce qui est destiné à la sortie partira. Et de la même manière, aucun membre du corps de Jésus-Christ ne pourra rester en arrière. Il est la tête, nous sommes les membres, nous sommes nés de Dieu, nous sommes devenus fils et filles de Dieu, et aucun fils ni aucune fille de Dieu ne pourra rester en arrière. C'est tout simplement impossible. Le corps du Christ doit être complet. Et il n'est complet que lorsque la tête et tous les membres sont réunis au complet. C'est alors, réunis au complet, unis les uns avec les autres, c'est alors que le corps est complet, le Christ est la tête, et nous sommes ses membres. Au verset 10, ensuite, nous lisons, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Bon, nous l'avons assez entendu souvent, et puis, au verset 11, il est écrit, « Puisque tout cela va ainsi se dissoudre, comment doit-il en être chez vous en ce qui concerne l'épreuve d'une vie sainte et de la piété ?» Verset 12, « Alors que vous attendez l'arrivée du jour de Dieu et que vous vous y préparez, jour à cause duquel les cieux se dissoudront dans le feu et les éléments se fondront dans la chaleur des flammes. » On a ici l'impression que nous devons attendre le jour de Dieu, c'est en effet le jour terrible du Seigneur, par opposition au jour de Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans l'épître aux Philippiens où il est question à trois reprises du jour de Jésus-Christ. Ici, il est question du jour de Dieu. Et ce jour de Dieu nous est décrit comme le jour de Yahvé, le jour du Seigneur qui brûlera comme une fournaise. Le jour de Jésus-Christ est le jour de son retour. Le jour de Dieu est le jour qui brûlera par le feu et les incroyants seront alors comme de la paille. Mais soyons honnêtes, nous voyons bien ces deux jours et nous voyons que ces deux jours ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Le jour de Jésus-Christ, notre Seigneur, le jour de son retour pour venir chercher l'Église, épouse en tant qu'épouse, est désormais tout proche. Mais nous savons également que Dieu voulait envoyer un prophète avant que ne vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Tout cela donc se succède donc très rapidement. Il ne nous reste donc pas beaucoup de temps. Et si nous savons que le jour du Seigneur, le jour de Dieu, qui est déjà si proche en tant que jour du jugement, est si proche, alors à quel point l'enlèvement est-il proche? À quel point le jour de Jésus-Christ que nous attendons en tant que croyants est-il proche? Mais bien, mes chers amis, je crois que nous devons rester sobres jusqu'au dernier jour. J'entends par là une journée de 24 heures. Mais que nous devons néanmoins garder à l'esprit que le temps touche à sa fin. Et que nous devons bel et bien consacrer à nouveau notre vie à Dieu. Mais que personne ne se laisse aller à l'ivresse. Et que personne ne manque de sobriété, mais que personne, oui, ne prenne de décisions qui seraient contraires à la raison, mais que chacun reste sobre et lucide jusqu'à la fin. Comme le disait Luther à l'époque, s'il savait que le Seigneur viendrait demain, il planterait son petit arbre aujourd'hui. Et ceux qui relisent certaines de ses maximes percutantes pourront également y découvrir ce qu'il disait à propos de sa femme C'était un homme qui avait les deux pieds bien ancrés dans la vie. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi, jusqu'à la fin. Que celui qui souhaite acheter une maison l'achète. Que celui qui a besoin d'une voiture s'en procure une. Que celui qui souhaite se marier le fasse. Que chacun reste sobre et lucide jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Le pire, qui pourrait nous arriver, ce serait d'être la cause pour laquelle d'autres pourraient se moquer et demander où donc est ce retour qu'il a promis. Vous savez, à l'époque, lorsque l'année 1977 ou 1977 a été mise en avant en grande pompe par les frères des États-Unis, cela m'a tout simplement fait claquer la porte. Je ne pouvais tout simplement pas m'y relier, m'y rallier, même en faisant de gros efforts. Et beaucoup de ceux qui ont vécu cette époque savent bien que j'avais déjà clairement indiqué dès 1975-75 que personne ne peut fixer le jour ni l'heure. L'homme qui a écrit et édité le livre « Les sept âges de l'Église » m'a alors dit « Mais il n'est pas écrit qu'on ne puisse pas connaître l'année et le mois. Il est seulement écrit qu'on ne connaît ni le jour et l'heure, ni l'heure. » Je me suis contenté de secouer la tête et j'ai dû m'en aller car c'était un argument tellement stupide qu'il ne méritait même pas de réponse. Quand qu'on donne une indication temporelle, qu'on ait dit le jour et l'heure ou le mois et l'année, cela revient au même. Personne ne connaît le jour ni l'heure et donc personne ne connaît le mois ni l'année. Cela va de soi. Pas besoin d'être docteur en théologie pour comprendre cela. Mais nous avions parlez clairement à l'époque. Et vous vous en souvenez. Sans doute, j'ai acheté le terrain voisin en 1976, en 1976, et à moins de 15 mètres d'ici. On m'a dit juste au moment où le crépuscule tombait. Va sur le terrain voisin et consacre-le à moi, car des gens viendront du monde entier et je bénirai ce lieu. Je bénirai ce lieu. Je suis donc sorti par le portail arrière. Je me suis agenouillé là-bas et j'ai consacré le terrain au Seigneur. Pour certains qui ont particulièrement mis l'accent sur l'année 1977, cette décision était incompréhensible pour eux. Je devais le faire et je suis reconnaissant de l'avoir fait. Et ainsi, nous pourrions mentionner ici toute une série de choses qui prouvent que nous n'avons pas perdu la tête, mais que nous sommes restés lucides malgré tout ce qui a été avancé. C'est exactement ainsi que nous voulons agir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et certains se demandent peut-être pourquoi nous construisons. Bien sûr, tout le monde peut secouer la tête, mais accomplir la mission divine, le mandat divin, et c'est tout simplement pour cela que nous sommes là. Et ce qui est nécessaire pour cela doit simplement être là. Et si cela a plu au Seigneur d'en disposer ainsi, peut-être nous reste-t-il encore quelques années. Dieu seul le sait. Et c'est bien ainsi que nous ne puissions pas le savoir. Si nous le savions, nous le ferions quand même. Mais c'est bien ainsi. Personne ne le sait vraiment. Et à l'époque, j'ai aussi posé la question spécifiquement aux frères qui ont dit, je crois même que dans la brochure, la parole de Dieu demeure éternellement. À l'époque, avec tout l'enthousiasme avec lequel cela nous avait été présenté, nous avions sans doute écrit dès les tout débuts que frère Branham aurait vu un calendrier qui s'ouvrait encore et encore, puis s'était arrêté sur l'année 77, donc 77. Et lorsque j'ai ensuite demandé à notre cher ami du Texas de me prouver où frère Branham avait dit cela, il a juré, je vais te le montrer. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu le montrer, car cela n'existe pas. Et si je dis cela, c'est uniquement parce que des frères, animés par une conviction quelconque, ils se sont laissés emporter par tout ce qui se passait, ont tenu certains propos irréfléchis, si bien qu'aujourd'hui dans les livres d'histoire de l'Église en Suisse, et en République fédérale d'Allemagne, on peut lire « William Branham, l'évangéliste guérisseur, s'est trompé. Il a indiqué que l'année 1977 était la dernière année. C'est lui qui est mis en cause simplement parce que des frères ont manqué de discernement. Et bien sûr, ils n'ont pas apporté la correction, bien que je la leur ai transmise. Mais tels sont les gens de ce monde. Ils veulent garder ce qui correspond à leur conception et rejeter le reste. Je pense notamment à celui qui m'a encore appelé avant la mise sous presse et m'a dit qu'il tenait beaucoup à ce que tout soit rectifié. Et quand il a reçu mes informations, il n'a rien rectifié. Voilà comment sont les gens de ce monde. Ils ne veulent tout simplement pas laisser un homme de Dieu être considéré comme tel, mais préfèrent le déclarer faux prophète. Nous vous disons la vérité. Lorsque Frère Branham a lui-même relu certains livres, j'ai d'ailleurs les titres en anglais, où des gens avaient fait des calculs et mentionné l'année 1977, il a alors dit, cela pourrait être à 20 ans près, cela pourrait être à 100 ans près, je ne le sais pas. Mais c'est du moins ainsi qu'il l'a formulé. Mais ces choses-là n'ont pas été transmises à l'époque. Oui. Or, ici, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 14, il est écrit, au verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. » Verset 15 de Pierre 3, verset 15. « Et considérez la patience de notre Seigneur comme un moyen de salut, comme vous l'a également écrit notre frère bien-aimé Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Lorsque nous lisons de telles paroles, cela nous touche au plus profond de nous-mêmes. Des hommes de Dieu, guidés et animés par le Saint-Esprit, ont écrit, ont prêché, ont révélé tout ce que nous devons savoir. Et maintenant, alors que le temps de l'accomplissement approche, Dieu a de nouveau eu un homme selon son cœur pour révéler ce qui était caché, dévoiler les mystères et nous accorder par grâce l'accès à toutes ces choses. Combien de fois l'avons-nous dit ici? Nous aurions tous suivi notre propre chemin dans la même direction que tous les autres. L'un vers les baptistes, l'autre vers les méthodistes, le troisième vers le mouvement pentecôtiste, le quatrième peut-être même vers le charisme, le christianisme primitif, où l'on nomme encore des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes devant la communauté qui, selon la doctrine, dont on nomme des frères et ils sont établis devant la communauté. Et selon la doctrine, ils sont plus proches du christianisme primitif. Et nous pourrions être très proches d'une cause. Mais si nous n'en faisons pas partie nous-mêmes et si nous n'y sommes pas façonnés, si nous ne sommes pas dans la chose elle-même, être tout près, c'est quand même à côté de la plaque. Être tout près, c'est quand même à côté de la plaque. Il faut être au cœur de la cause, de la chose. Non seulement s'en approcher, mais y être intégré. Ce n'est qu'alors que l'on devient partie intégrante de cette cause, de cette chose. Et nous avons bien vu combien il y en a eu, même parmi les grands évangélistes, et l'un des grands, des plus grands a bien été Osborne, et bien sûr Robert, peut-être un peu plus grand encore, si l'on tient compte de l'envergure de sa clinique universitaire et de son université. Il a en effet récolté plus d'un milliard. Il s'en est vanté lui-même. Je l'ai entendu de sa propre bouche à Londres. Il a dit, tous les évangélistes ont récolté des millions, mais je suis le seul à avoir récolté plus d'un milliard de dollars. Et cela lui a confirmé que Dieu lui avait fait affluer cet argent. Nous ne sommes pas des juges, mais nous avons récemment relu le sermon, l'accusation. Et voilà que je regarde la photo et qui était assis sur l'estrade lorsque Frère Branham a délivré ce message vraiment poignant et pressant. L'accusation, T.L. Osborne est assis juste à côté de l'estrade sur la scène et écoute un tel sermon. Cela aurait dû inciter les gens à réfléchir s'ils avaient voulu prendre part à cette affaire. Mais ils n'avaient que leur propre cause sous les yeux. Et il ne leur a pas été donné de sortir d'eux-mêmes pour entrer dans ce que Dieu fait actuellement. Et avec quelle clarté, frère Branham, s'est-il exprimé à ce moment-là? Et vous devriez entendre le ton avec lequel il s'exprime là. C'était un sermon dans la colère de Dieu. Ce n'était pas seulement une prédication. Et je sais ce que cela signifie. Quand le Seigneur parle avec douceur, je sais quand il parle d'une voix puissante, et je l'ai entendu parler une fois dans la colère. Je ne voudrais pas l'entendre une deuxième fois. Quand le Seigneur est en colère, c'est une chose terrible. Et dans ce sermon, on peut le percevoir. La ferveur du Seigneur a consumé cet homme de Dieu. Il voyait pourtant comment la parole de l'heure était rejetée et livrée à la moquerie. Comment les précieuses vérités, qu'il s'agisse de la divinité, du baptême, du péché originel, de tout ce qui a pourtant été révélé, étaient piétinées. Ainsi, l'Esprit de Dieu est attristé, et le Fils de Dieu est à nouveau crucifié. Et la précieuse parole de Dieu a de nouveau été livrée à la honte. Et cela continue encore aujourd'hui. Cela continue encore. Vous savez, lorsque frère Branham a prêché le sermon mariage et divorce, il a dit quelque part vers la fin, je me prépare dans mon bureau. Ce sera comme après le sermon, la prospérité du serpent, la semence du serpent. Il a tout de suite ajouté, les lettres vont arriver. Oui, elles sont arrivées. Et jusqu'à ce jour, il y a de grands prédicateurs qui pêchent précisément sur ces choses qui nous sont précieuses. Et pourquoi précieuses? Parce qu'elles n'étaient pas à la surface, visibles pour tout théologien, mais qu'elles faisaient partie des mystères cachés de Dieu et de la parole. Et la parole ne vient justement qu'aux prophètes. C'est ainsi qu'elle a été révélée en cet âge prophétique. Et il ne suffit pas seulement d'être évangéliste. Si l'on l'est vraiment, alors il faut respecter le ministère que Dieu lui a aussi confié. C'est en fait le ABC au sein du corps du Seigneur. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui des autres aussi. Philippiens 2:4. Que l'œil ne dise pas au pied, je n'ai pas besoin de toi. Et que le pied ne dise pas à la main, je n'ai pas besoin de toi. 1 Corinthiens 12:21. Mais c'est tout le corps composé de nombreux membres où chaque membre a besoin des autres. Que serait le corps sans pied, sans yeux, sans oreilles? Et Dieu a établi dans l'Église divers ministères, mais c'est un seul et même Esprit qui opère tout en tous. Que quelqu'un ait un don ou un ministère, cela n'a aucune importance. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit qui agit en tous. Et s'il s'agit bien du même Saint-Esprit, alors nous sommes unis à la tête et liés les uns aux autres en tant que membres, et nous reconnaîtrons ce que Dieu, par sa grâce, a destiné et donné au corps. Mais voyez, il faut des hommes de Dieu, de l'envergure, d'un Pierre, d'un Paul, d'un frère Branham, pour que les choses cachées soient réellement mises en lumière comme il se doit. Nous avons récemment cité ici un passage du sermon de Pierre dans lequel il s'est arrêté au milieu d'une pensée exprimée par le prophète Joël et n'a pas lu le verset jusqu'au bout, tout comme Jésus, dans Luc 4, au verset 16, n'a pas non plus lu jusqu'au bout. Il est tout simplement important de s'arrêter là où il faut s'arrêter. Je vais peut-être vous le lire, certains n'ont peut-être pas entendu cela ici, Mais pour nous, de tels versets sont très, très précieux. Je vais vous le dire aussi pourquoi. Parce que nous voyons la conduite directe du Saint-Esprit. Non seulement chez les hommes de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi parmi nous, où Dieu a envoyé son serviteur et son prophète pour dire exactement aujourd'hui ce qui doit être dit. Et vous vous en souvenez peut-être, un jour il a dit, ici j'ai tracé une ligne et écrit jusqu'ici. Il aurait pu en dire davantage, mais à ce moment-là, c'était ce qu'il avait à dire. Et que Dieu soit remercié de ce qu'il se soit arrêté là où il fallait s'arrêter. Vous savez, dans le prophète Joël, peut-être devrions-nous d'abord lire ce passage. Il est écrit que les hommes invoqueront le Seigneur. Joël chapitre 2, verset 32. Joël chapitre 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La phrase s'arrête là et la deuxième partie dit, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Maintenant, je lis dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Imaginez que Pierre ait vraiment continué à lire et ait dit, comme il est écrit ici dans Joël, car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Alors tous du monde entier auraient dû faire un pèlerinage à Jérusalem sur le mont Sion pour y recevoir le salut. Remarquez-vous à quel point Dieu est fidèle et à quel point Dieu est précis. L'évangile destiné à toutes les nations est en effet proclamé dans le monde entier et lorsqu'il se rapporte à nouveau à Israël. Alors, le salut sera à Jérusalem et sur la montagne de Sion. Alléluia! Loué soit le nom du Seigneur, notre Dieu. Dieu est un Dieu d'une grande précision. Et ce qui est important pour nous, c'est que toujours, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous voyons ces choses, les reconnaissions et rendions à nouveau grâce à Dieu de nous les avoir révélées et que nous allions aussi loin que cela est destiné pour les nations, et ensuite que Dieu puisse continuer avec Israël comme cela est destiné pour Israël. Je voudrais encore aborder très brièvement Galates 3. Au cours des dernières réunions, nous avons lu ici et là, un peu partout, des passages de l'Épître aux Éphésiens, de l'Épître aux Romains et de l'Ancien Testament, et nous avons montré comment du côté de Dieu, tout est réellement accompli. On ne peut plus rien y ajouter. Il faut seulement que ce qui a été accompli se manifeste en nous et deviennent réalité. Dans Galates 3, je voudrais lire les versets 21 et 22. La loi est-elle donc en contradiction avec les promesses de Dieu? Galates 3, verset 21 et 22. Maintenant, le verset 21. Loin de là. En effet, si une loi avait été donnée qui eut le pouvoir de donner la vie, alors la justice viendrait bel et bien de la loi. Verset 22. Mais maintenant, l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse, le bien promis, soit accordé aux croyants en raison de leur foi en Jésus-Christ. L'objet de notre foi est Jésus-Christ, car en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. Il est notre sauveur, c'est pourquoi il est l'objet de notre foi salvatrice. Non pas seulement de la foi, mais de la foi salvatrice. Et s'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ce n'est pas seulement un titre, il a un nom, Romains 10, 13, et hébreu. En hébreu, Yahshua, Jésus, la forme grecque, et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour la révélation de son nom. Et nous l'avons invoqué et nous sommes sauvés. Nous avons été rendus bienheureux. Or, s'il est écrit ici au sujet de la loi qu'elle n'est pas en contradiction avec les promesses, et Dieu ne peut bien sûr pas se contredire, c'est impossible. Que ce soit la loi ou la grâce, les deux sont nécessaires. La loi pour nous convaincre de péché et nous condamner. Et c'est pourquoi il est écrit ici que Dieu a enfermé tout, sans exception, les Juifs et les nations, a enfermé tous, sans exception, les Juifs et les nations, tous, donc tous les hommes sont sous l'incrédulité, sous le péché. Personne ne pouvait s'en sortir. Il fallait que vienne celui qui nous en a fait sortir. Oui, celui qui a pu dompter la captivité, qui a pouvoir sur le péché et la mort, le diable et l'enfer, et qui le troisième jour est ressuscité d'entre les morts et a pu proclamer « Je vis et vous vivrez aussi ». Jean 14, 19. Comme il est écrit ici, verset 22 maintenant, « Or l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse, le bien promis, soit accordé aux croyants sur la base de la foi en Jésus-Christ. Puissions-nous porter en nous cette foi qui sauve, afin que cette foi devienne pour nous une révélation. Frère Branham l'a d'ailleurs dit de temps à autre, la foi est une révélation. Mais pas une révélation telle que nous l'imaginons à propos de n'importe quoi, mais toujours en référence à Jésus-Christ, l'objet de notre foi. Lui qui nous a rendus justes, qui nous a sauvés, la foi qui justifie, la foi qui sauve, est liée à celui qui est venu pour nous justifier, pour nous sauver, liée à celui qui a été placé sous la loi afin de nous racheter. Dans Galates 3, verset 13, il est écrit, Galates 3, verset 13, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est perdu au bois. Galates 3, verset 14. Précisément pour que la bénédiction promise à Abraham soit accordée aux païens en Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir par la foi le bien promis de l'Esprit. Tout repose sur le fondement de la foi. Mais comme nous venons de le suggérer et de le mentionner brièvement, la foi doit soudainement devenir une révélation vivante. Cela doit être révélé à chacun personnellement. Cela s'est accompli pour toi. Cela s'est accompli pour moi. Cela doit être lié à une foi salvatrice qui devient une révélation pour chacun, la révélation de ce qui a été prêché à partir de la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on prêche et ce qu'on prêche vient de la parole de Dieu. Lorsque cela se produit, le doute est balayé et l'incrédulité prend fin. Alors, nous nous tenons dans la foi du Fils de Dieu et pouvons dire avec Paul, ce que je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et je vis cela dans la foi du Fils de Dieu. Puissions-nous recevoir ce soir ce précieux don de Dieu par grâce afin de pouvoir simplement dire, Seigneur, nous savons que ce grand jour est proche. Nous savons que le retour du Seigneur est proche. Nous savons que l'enlèvement est imminent. Et que nous puissions simplement dire, Seigneur, tu t'es révélé à nous, tu nous as fait connaître ta parole, tu nous as donné la lumière au crépus, au précus, au pré, au cré, puisque donc au temps du soir. Culte en moi une telle confiance en toi, une foi vivante et salvatrice qui vient de toi et qui conduit à toi. Comme nous l'avons dit bien souvent, la parole qui part du trône de Dieu n'y revient pas sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Aujourd'hui encore, nous voyons les événements de la fin des temps. Nous voyons en effet, non pas parce que nous le disons, mais parce que la parole de Dieu nous le montre. Nous voyons que la fin est bel et bien proche. Et si déjà à l'époque il était dit que la fin est proche, 1 Pierre 4 verset 7, soyez sobres, etc., alors la fin de toutes choses est proche. Il y a 2000 ans cela a été dit. Alors je crois que Dieu a veillé à ce que la Bible ne soit pas seulement un livre destiné à une génération, à savoir celle de l'époque d'autrefois, mais qu'elle reste valable à travers tous les temps, à travers toutes les époques, qu'elle reste la parole de Dieu et qu'elle ait donné à tous en tout temps la bonne information par grâce. Et nous, qui avons le privilège de vivre à la fin des temps, nous ne pouvons qu'ajouter à ce que tous les autres ont déjà reçu, à savoir la révélation de toutes ces choses qui se rapportent à la fin des temps, que nous voyons, comprenons et replaçons dans leur contexte biblique par grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec conviction, nous savons que le Seigneur revient bientôt. Non seulement nous le croyons, mais nous le savons. Et pourquoi le savons-nous? Notre Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit, quand vous verrez que tout cela commence à arriver, relevez la tête, car vous savez que votre délivrance, votre rédemption est proche. Nous sommes en effet la première génération qui, par pleine conviction, n'a plus besoin d'interpréter ce qui se passe actuellement, mais seulement d'observer, d'en tirer les leçons et de nous hâter afin d'être préparés pour le grand et glorieux jour du retour, afin d'être prêts pour le grand et glorieux jour du retour de Jésus-Christ. Tous les autres ont dû interpréter le figuier, les nations et bien d'autres choses encore. Nous n'avons rien à interpréter. Nous regardons simplement et voyons le figuier à bourgeonner. Les bourgeons sont là et voilà que les fruits commencent déjà à apparaître. Les nations sont telles qu'elles devraient être. La situation mondiale dans son ensemble est bel et bien telle qu'elle nous est décrite dans la parole prophétique. Il en va de même pour l'Église et tout le reste. La description et la réalité correspondent parfaitement. Donc, nous pouvons donc, même si cela fait de nous la risée des incroyants, affirmer le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est imminent. Et Dieu nous a accordé le privilège et la grâce d'entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises en ce temps, de prêter attention à la parole prophétique comme à une lumière éclatante qui brille dans un lieu obscur. Nous donnons raison à Dieu et souhaitons prêter attention à toutes les paroles des prophètes et des apôtres qui ont parlé au nom du Seigneur, tout en remerciant Dieu de tout cœur d'avoir ouvert nos cœurs, déverrouillé nos oreilles et oint nos yeux afin que nous puissions voir. Vous le savez, c'est pourquoi il est également écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Beaucoup ont des oreilles, mais pas d'oreilles pour entendre. Mais les disciples, comme l'a écrit le prophète Ésaïe, Ésaïe 50, verset 4, « Tu me réveilles comme un disciple et tu m'ouvres l'oreille. » Dieu doit ouvrir l'oreille de l'homme, l'oreille spirituelle, et lui ouvrir l'esprit, la compréhension, afin que le Saint-Esprit puisse transfiguré et révélé. Puisse cela nous être accordé à tous par grâce. Puisse le Seigneur avoir réussi à nous parler à travers à travers cette prédication et continuer à nous parler jusqu'à ce que soit accompli ce que Dieu voulait accomplir par la parole qu'il a rendue grande et précieuse pour nous en ces jours. Nous sommes reconnaissants qu'il parle encore. Nous sommes reconnaissants qu'il appelle encore à sortir, qu'il sauve encore, qu'il appelle encore, qu'il sauve encore, qu'il rende, qu'il sauve encore, qu'il rende encore bienheureux, qu'il s'adresse aux hommes et que sa parole soit encore aujourd'hui vivante et puissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Dieu, pour sa part, a tout accompli. Puisse cela s'accomplir pleinement aussi en nous. Puisse-t-il y avoir une vie nouvelle et divine, un don de soi, une consécration au Seigneur, tout à Jésus, entièrement à lui. Que ce soit notre devise, comme le chante ce cantique, et je suis sûr que le Seigneur nous bénira et continuera d'être avec nous. Loué soit son nom glorieux pour sa parole précieuse et sainte pour tout ce qu'il nous a déjà donné par grâce et qu'il nous donnera encore pour l'éternité. Amen. Alors que nous avons incliné la tête et que nous prions encore, y a-t-il ici quelqu'un qui ait une intention de prière particulière, une requête peut-être pour une guérison ou quoi que ce soit d'autre? Voulez-vous lever les mains avec foi? Dieu est présent. Il veut confirmer la vérité de sa parole. Il veut accomplir des signes et des miracles. Il veut se glorifier. Il veut être honoré par la foi. Et là où l'on croit, le bras du Seigneur agit. Le bras du Seigneur n'est pas devenu trop court. La main droite du Seigneur est élevée et la main droite du Seigneur remporte la victoire. Loué soit le nom du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, en vertu de l'autorité de ta parole, par la puissance de ton sang et par la puissance de ton esprit, ô Seigneur, nous acceptons maintenant avec foi ce que tu nous as acquis à Golgotha, ce pourquoi tu as payé le prix et ce qui nous appartient de droit. Seigneur bien-aimé, révèle maintenant ta victoire à nous tous et confirme la vérité de ta parole. Seigneur, tu es ressuscité, tu es la vérité. Nous t'en rendons grâce, nous te remercions et nous louons ton nom merveilleux et glorieux. Et nous proclamons ta victoire, la victoire de Golgotha sur le diable, la mort, le péché, la maladie, sur tout, Seigneur. Toi, le vainqueur de Golgotha, nous te disons merci également pour la foi salvatrice, la foi qui sauve, qui nous a révélé que tout est accompli. Une révélation de Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, nous te rendons également grâce de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et de ce que tu nous as ouvert le sens des Écritures. Oh, quelle grâce! Tu nous as accordé la compréhension des Écritures. Quelle grâce, ô Dieu, de ne pas tâtonner comme des aveugles le long d'un mur quelconque. Seigneur, notre Dieu, nous t'adressons maintenant nos remerciements dus de tout notre cœur et de toute notre âme. Tu as misérablement visité ton peuple. Tu as envoyé ton prophète. Tu as envoyé un message. Seigneur, nous t'en rendons grâce et te prions. Accompagne-nous tous jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Aie tes voix avec nous. Seigneur, nous témoignons que ta parole est vraie. Et nous témoignons que la la droite du Seigneur est élevée. Et nous témoignons avec conviction, la droite du Seigneur remporte la victoire. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Seigneur, nous proclamons la victoire de Golgotha à tous ceux qui croient en toi. Alléluia. Sois loué et glorifié. Dieu fidèle, maintenant et pour l'éternité. Alléluia.
Amen.
Amen.